Rencontre avec Loïc Barrière sur Radio Orient.
L'invité de rencontre est Cherbel Massad, professeur en neurosciences à l'Université de Paris, doyen de la faculté des sciences fondamentales et biomédicales. Bonjour.
Bonjour Monsieur Barrière.
Alors Cherbel Massad, j'aimerais d'abord qu'on parle de la situation des étudiants lors de cette crise sanitaire. Des milliers d'entre eux dépendent de l'aide alimentaire. On a vu des images sur Internet, notamment de ces longues files d'attente devant les centres de distribution alimentaire. Certains connaissent aussi des troubles psychologiques. Qu'est-ce qui peut être fait pour aider les étudiants ?
Donc, comme vous l'avez remarqué, la situation de nos étudiants est devenue catastrophique sur plusieurs points. Le premier point est financier, parce qu'un grand nombre de nos étudiants n'ont plus de job et donc ne peuvent plus subvenir à leurs besoins comme les loyers, la nourriture. Donc, ce qu'on essaye de faire, c'est de leur donner des chèques alimentaires, de les aider pour les loyers, etc. Mais ce n'est vraiment pas suffisant. Le vrai problème, c'est une détresse psychologique. Comme vous l'avez vu, les confinements à répétition, les restrictions de liberté sont très délétères pour les jeunes, surtout pour les jeunes. Et on a une population qui est très très affectée, ce sont les étudiants étrangers qui arrivent pour la première fois en France et se retrouvent loin de chez eux, loin de leur culture, et enfermés, bloqués dans une pièce devant un ordinateur pour suivre leurs cours. Ils n'ont aucun contact, ni humain, ni culturel. C'est totalement déboussolant et stressant pour eux. Et là, je vais passer au versant, on va dire, de neurosciences, parce que c'est ma spécialité. Ce genre de stress va induire ce qu'on appelle des stress psychosociaux. Cela va provoquer des remaniements cérébraux très importants et voire des lésions cérébrales en cas de stress extrême. C'est par exemple lors d'un confinement de longue durée ou même lors de la maladie de la Covid. Les cerveaux de nos jeunes sont, comme vous le savez, en cours de formation. Plus on est jeune et plus on est affecté par cela. Et des études récentes ont clairement montré les effets néfastes du confinement et de la privation de liberté. Ce sont des articles qui sont sortis depuis mars dans plusieurs pays du monde. Ils ont été unanimes en montrant qu'il y a une augmentation très importante des dépressions dans le monde, plus 20% dans les populations confinées ou les populations qui ont eu la Covid. Et il est nécessaire de faire une activité sportive de plus de 2 heures, d'avoir un animal de compagnie ou même d'avoir une activité sexuelle pour bloquer ces effets néfastes du confinement ou aux déprivations de liberté. Et les malades Covid, surtout les étudiants qui ont la maladie, vont avoir des thromboses locales au niveau de certains vaisseaux sanguins dans leur cerveau. Ceci provoque des lésions et ces lésions provoquent à moyen terme, donc dans les mois qui suivent, des dépressions nerveuses. Et là, on doit se poser une question très très importante en France. C'est une question qui a été posée par Tocqueville, qui est redevenue d'actualité. La place de la liberté et de l'égalité, qui sont deux fondements de notre République. En ce moment, l'égalité est en train d'étouffer la liberté. On confine et on réduit la liberté de toute une population, tout en sachant qu'il y a une population à risque, une population âgée qu'il faudra préserver. Donc, nos jeunes sont les victimes collatérales de l'égalité de traitement. Donc, il faut confiner d'une manière très ciblée pour éviter ces problèmes à nos jeunes. Et il faut surtout, surtout réouvrir les universités et surtout au niveau des licences, parce que certains étudiants n'ont jamais eu un contact avec l'université.
Alors vous qui êtes scientifique, Cherbel Massad, est-ce que vous comprenez que la France, le pays de Pasteur, soit obligé d'importer des vaccins ?
C'est une triste réalité. La France est le pays de Pasteur, un des pères de la vaccination. Mais aussi c'est le pays de Jacob et de Monod, qui sont les découvreurs de l'ARN. Et comme vous le savez, le premier vaccin anti-Covid est basé sur l'ARN. Donc, c'est une double spécialité, une double force française qu'on a perdue avec le temps. Pourquoi nous n'avons pas réussi à faire un vaccin français ? Premièrement, la recherche française a été étranglée par des années de restrictions financières. Nos chercheurs ne peuvent plus accomplir leur mission. nous avons assisté et nous assistons toujours à une exode des chercheurs à l'étranger. Nous formons des chercheurs pendant une dizaine d'années. Ça a un coût énorme sociétal. Et ensuite, on va les livrer à des pays étrangers gratuitement pour qu'ils fassent leurs recherches. L'ironie du sort, la société Moderna est dirigée par un Français et l'équipe est largement libanaise. Et vous voyez là deux pays qui n'ont pas accès au vaccin facilement. Les ressortissants de ces pays ont fabriqué un vaccin aux États-Unis. Pourquoi ? Parce que les États-Unis, c'est un pays d'investisseurs et un pays d'entrepreneurs. On a vu exactement la même chose pendant la Première Guerre mondiale. Pendant la Première Guerre mondiale, la France a eu une très mauvaise idée, c'est d'envoyer ses chercheurs sur les fronts. Ils sont morts, ils ne sont pas revenus. Et entre les deux guerres, c'était une période noire pour la recherche française. On ne s'est pas remis et c'est pour ça qu'on a accusé le coup pendant la Deuxième Guerre mondiale. Donc l'État français s'est désengagé pendant des décennies de la recherche. Les laboratoires pharmaceutiques ont fait la même chose. Ils préfèrent investir sur des start-up au lieu de faire de la recherche fondamentale et de la recherche appliquée. Et on le paye. Il ne faut pas oublier aussi que l'innovation en France est très timide. On prend peu de risques. Comme je l'ai dit, il y a peu d'investisseurs par rapport aux pays anglo-saxons. Il y a peu de moyens qui sont donnés aux projets innovants. Et on ne prend pas de risques, on veut des retombées financières sur 2 à 5 ans, ce qui n'est vraiment pas suffisant pour mener à bien un projet de recherche. Comme vous l'avez remarqué, le robot de la NASA qui est aujourd'hui sur Mars, c'est 15 ans de travail acharné de plusieurs équipes. Donc il faut donner le temps à la recherche et des financements à la recherche.
Ce que vous êtes en train de nous dire, Charbel Massad, c'est que l'université peut être le lieu de l'innovation au moment où cette crise oblige chacun d'entre nous à nous adapter, à réfléchir à des solutions nouvelles.
Je suis tout à fait d'accord avec vous. L'université, c'est la solution à ces problèmes. Malheureusement, comme en génétique, nous évoluons par crise et non pas progressivement. Nous avons pris une vraie claque par la Covid. Nous n'étions pas prêts. Pourtant, on savait que cette pandémie était à nos portes. Elle allait arriver. Il fallait uniquement écouter les historiens qui avaient prédit cela. Tous les 100 ans, les humains sont soumis à une pandémie. Donc, il fallait qu'on se prépare. Il fallait qu'on suive l'évolution de ce virus qui nous a déjà fait deux alertes en 2011 et en 2007. Et s'est installé en 2020. On n'a fait aucune recherche sur ce virus quand il est arrivé soit en Chine, soit dans les pays du Moyen-Orient en 2011. Actuellement, on paye cela. Donc, l'université doit être l'épicentre de ce changement. Déjà, elle doit se décloisonner et s'ouvrir vers la société. Ce n'est pas le cas actuellement. Dans l'université et dans les instituts de recherche, nous faisons des découvertes majeures. Nous pouvons créer des traitements, de nouveaux prototypes, mais généralement, ça s'arrête aux portes du laboratoire. Il faut donc rapprocher absolument l'ingénierie de l'université.
Charbel Massad, comment voyez-vous l'université française à l'horizon 2030 ?
L'université française doit subir une mutation vraiment profonde. Elle doit redevenir le lieu de l'innovation et surtout, elle doit enseigner différemment. L'université ne doit pas seulement former les étudiants, elle doit aussi informer la société. La crise de la Covid nous l'a montré. On a vu sur nos télés, sur nos radios, des apprentis virologues, des apprentis médecins qui avancent parfois de fausses vérités et qui vont stresser la population. Le rôle de l'université est donc primordial pour informer la population. Et il faut noter aussi que l'université doit enseigner différemment. Comme vous le savez et comme vous l'avez tous vécu, dans les amphithéâtres, nous avons des centaines et des centaines d'étudiants qui s'entassent. Les amphithéâtres sont devenus désuets. Et on l'a vu pendant la crise de la Covid. Donc il faut un enseignement qui rend l'étudiant acteur et non pas spectateur. Nous avons, par exemple, mis en place des TP qui sont très innovants, qui sont sous la forme d'escape games pour motiver l'étudiant. Nous faisons des cours inversés, nous faisons des enseignements sur projet. C'est un apprentissage différent qui remet l'étudiant au centre de l'université. Donc, il ne faut pas aussi oublier que l'université a une concurrence farouche qui est Internet. Donc, elle doit modifier son enseignement pour se démarquer d'Internet. Un dernier point, c'est que vous l'avez remarqué, on vit très longtemps. On a le droit de changer de carrière pendant notre vie professionnelle. Donc l'apprentissage, tout le long de la vie, doit être une priorité à l'université. Il doit être amélioré. On ne doit pas retrouver à l'université des étudiants de 20 ans. On doit aussi retrouver des étudiants qui ont 30 ans, 40 ans, 50 ans, voire plus, des gens qui veulent revoir leur carrière.
Alors, Charbel Massad, certains élèves ont parfois le sentiment que l'université n'est pas au même niveau que les grandes écoles. C'est peut-être pas un sentiment, d'ailleurs, c'est peut-être une réalité. Est-ce qu'il faut mettre plus de moyens à l'université pour les rendre plus attractives?
Vous avez raison, c'est une réalité. Les bacheliers et la population générale ont l'impression que les grandes écoles ou les écoles d'ingénieurs sont meilleures que l'université. Mais ceci est réellement faux. Pourquoi? Parce que, d'une part, on a vécu plusieurs siècles où les grandes écoles ont été mises en valeur. Les très bons bacheliers vont préférer aller dans les classes préparatoires pour accéder à ces grandes écoles. C'est une histoire qui est unique en France, parce que c'est vraiment un modèle unique à la France. Les grandes écoles ont été créées par Napoléon pour former des ingénieurs de l'armée, des ingénieurs qui vont faire des ponts, faire des mines, etc. Donc, et ensuite, on a créé les classes préparatoires. Pourquoi? Pour sélectionner les meilleurs pour ces grandes écoles et surtout, barrer l'accès aux aristocrates pour qu'il y ait une sélection hors de l'aristocratie. L'université, elle, est née bien avant. Elle est née au XIIIe siècle en France, au niveau de la montagne Sainte-Geneviève. Elle était là pour créer, pour former des penseurs, des chercheurs. Mais actuellement, l'université n'est pas assez bonne en professionnalisation à Bac plus 3 ou à Bac plus 5. Pour cela, il faut que les deux systèmes, université et école, se rejoignent et travaillent ensemble. Pour cela, j'ai créé, avec le proviseur du lycée Janson de Sailly à Paris, un nouveau diplôme qui s'appelle CPES. Donc ce diplôme, c'est le cours préparatoire d'études scientifiques. C'est une hybridation entre une école prépa et une licence. Donc l'objectif est d'allier le meilleur de ces deux formations. La rigueur d'une prépa, l'ouverture vers la recherche et l'innovation d'une licence. Et les débouchés sont multiples, bien les métiers de la santé, l'ingénierie, les masters, Sciences Po, etc. Donc il faut que ces deux mondes retravaillent ensemble.
Charbel Massad, la presse a longtemps montré qu'il y avait moins de filles que de garçons dans les filières scientifiques. D'abord, est-ce que c'est vrai? En tant que doyen d'une faculté, est-ce que vous observez ce phénomène? Est-ce qu'il faut encourager davantage les filles à s'orienter vers les matières scientifiques?
C'est vrai, il était un temps où il y avait beaucoup plus de garçons que de filles dans les domaines scientifiques. Depuis une dizaine d'années, la tendance s'est complètement inversée. On retrouve plus de filles que de garçons dans les domaines scientifiques. Par exemple, en médecine, 75% des étudiants en première année de santé sont des filles. 60% en deuxième année sont des filles. Donc, il y a plus de réussite de filles que de garçons. Cependant, 15 ans plus tard, on retrouve que 15% des PUPH, donc des professeurs universitaires à l'hôpital, il n'y a que 15% qui sont des femmes et une toute petite poignée qui sont chefs de service. Les garçons s'orientent plus vers les métiers plus lucratifs, comme les finances ou l'économie. Les filles, plus vers les sciences et la médecine. Maintenant, on a un vrai problème sociétal qui est celui de l'accès des femmes aux postes de direction. On a très peu de femmes au niveau de ces postes. C'est un vrai problème. Il faut faire un travail de fond. L'instauration des quotas n'est pas suffisante. Donc, il faut y penser différemment.
Dernière question, Charbel Massad. Est-ce que l'université peut ou doit contribuer davantage au rayonnement de la France à l'étranger? Est-ce qu'un jour on parlera de l'université française comme on parle aujourd'hui du luxe ou du tourisme qui sont des fleurons français?
Je suis tout à fait d'accord avec vous. L'université française est essentielle pour la renommée de la France à l'étranger. Elle est l'ambassadrice de choix du savoir-faire et du savoir-être à la française. Comme vous le savez, la France est une terre d'accueil depuis la Révolution française. Elle forme presque gratuitement les étudiants du monde entier et qui deviennent ensuite nos ambassadeurs dans leur pays d'origine. C'est très important pour la culture française, pour la diffusion de la culture française à l'étranger, mais aussi c'est primordial pour l'économie française. Parce qu'une fois que nous avons formé un étudiant à la française, il va rentrer chez lui et il va retravailler avec les entreprises françaises. Ça, c'est un fait et on l'a vu depuis maintenant plusieurs décennies. L'université française doit aussi avoir le courage de s'implanter à l'étranger, comme les universités anglo-saxonnes ou certaines grandes écoles françaises. Ça aussi est essentiel pour la France, parce que là, on va diffuser notre culture in situ dans ces pays et nous allons avoir des retombées financières très très importantes parce qu'on a implanté l'université à l'étranger. Nous allons aussi implanter des laboratoires à l'étranger pour aussi faire de l'innovation avec ces pays étrangers. Mais ceci a besoin d'un financement très important. Parce que comme vous le savez, les financements pour l'université et pour la recherche en France sont très faibles. Il faut amorcer la pompe pour ensuite avoir des retombées. Implanter l'université à l'étranger, c'est financer l'implantation, mais après on va avoir des retombées financières très importantes. Soit sous la forme d'inscription, soit sous la forme de brevets et d'innovation.
Merci Charbel Massad. Je rappelle que vous êtes professeur en neurosciences à l'Université de Paris et doyen de la faculté des sciences fondamentales et biomédicales. Merci d'avoir été l'invité de Rencontre.
Merci Monsieur Barrière.
Rencontre sur Radio Orient.